Les cours du Collège de France, Thierry Coquan, chaire informatique et sciences numériques.
Dans la leçon précédente, donc, j'ai présenté une définition précise d'une version de la théorie des types qui s'est mise au point dans les années 80-90. Et j'ai donné des exemples de modèles de cette théorie, modèle ensembliste et modèle de préfaisceau. Et j'ai donné deux méthodes pour construire des modèles. Méthode du modèle interne. Donc, on définit une sorte de prédicat sur les types qui est clos par les opérations de la théorie des types. Et de cette manière, on peut construire un nouveau modèle à partir d'un modèle donné. Et la deuxième méthode de construction de modèle, c'était le modèle de recollement le long d'un morphisme exact à gauche. Donc, cette technique de construction de modèle va jouer un rôle important dans cette leçon. Alors, le modèle des termes est spécifié comme le modèle initial pour la notion de morphisme strict pour cette notion de modèle. Donc c'est une spécification. Et un des buts de cette leçon sera de montrer que l'égalité est décidable pour ce modèle initial. Et en plus, donc, pour ce modèle initial, l'opération de produit dépendant est injectif. Un corollaire de ces propriétés sera que le jugement de typage est décidable pour le modèle initial. Et un autre corollaire sera que l'opération de bêta-réduction préserve le type sur les termes. Alors là, donc, c'est un avantage de travailler dans une métathéorie constructive. Donc là, le modèle initial, il est spécifié à isomorphisme près, mais dans une métathéorie constructive, donc je peux dire que ce modèle initial défini à isomorphisme près a une égalité décidable. Alors, donc, la dernière fois, j'ai défini la notion de morphisme exact à gauche. Donc, c'est une notion de morphisme qui est à la fois stricte sur les substitutions et faible pour l'opération d'extension des contextes. Donc, je rappelle que cette opération agit sur les contextes. Et comme P est un... est une substitution de gamma dot A en gamma. Donc psi P sera une substitution de psi de gamma dot A dans psi de gamma. Et de plus, donc Q est un élément dans le contexte gamma dot A de type AP. Donc je peux appliquer le morphisme strict, le morphisme exact à gauche psi, et j'ai psi de Q qui est donc un élément de psi de gamma dot A et de psi de AP, et comme psi commute strictement avec la substitution, donc c'est la même chose que cet élément-là. D'accord. Et là, donc, j'ai les deux éléments qui me permettent de définir un morphisme. Comment définir un morphisme de delta dans gamma dot A? Donc on définit un morphisme de substitution de delta dans gamma et un élément. Donc delta A sigma. Donc ça me permet, c'est l'opération qui me permet de construire une substitution comme ça. Donc là, je peux toujours définir, dès que le morphisme est strict pour la notion de substitution, j'ai toujours un morphisme de psi gamma dot A dans psi gamma dot psi A. Psi A. Donc c'est le morphisme psi P. Et j'ai aussi toujours un morphisme, comme 1 est l'objet terminal, j'ai toujours un morphisme de psi 1, dont 1, que j'ai noté de cette manière-là. D'accord. Et donc dire que le morphisme est exact à gauche, c'est dire que cette flèche a un inverse, je suis la notation de Simon Hubert, donc je le note comme ça, et cette flèche-là a un inverse. Donc c'est la définition de morphisme exact à gauche. Et c'est tout. Donc, et ça, donc, c'est intuitivement, donc ça correspond à la. Quand la théorie des types a un type identité qui vérifie l'univalence, donc on obtient un modèle de cette théorie des types peut être pensé comme un infinité topos. Et cette morphisme de exact à gauche, donc avec une condition supplémentaire sur le fait qu'elle préserve les types contractiles, peut être vue comme une généralisation, infinie généralisation, de la morphisme, de notion de morphisme d'axe à gauche entre topos. Un topos. Alors, cette notion de morphisme exact à gauche est différente donc, de celle de pseudomorphisme qui est introduite dans le papier suivant. Et pour cette notion, donc, elle est plus faible. Donc, on a seulement un isomorphisme. La substitution n'est pas préservée strictement, mais préservée seulement à isomorphisme près. Pour une notion donc morphisme exact à gauche, donc on impose une égalité stricte et de même cette égalité stricte. D'accord. Donc là, c'est vraiment le jeu de la théorie des types par rapport à l'univalence. Donc c'est qu'on veut capturer de manière stricte des phénomènes qui sont faibles, comme la notion d'équivalence entre catégories ou équivalence entre infinité groupoïde. Alors, donc un début de cette leçon sera d'expliquer comment montrer que l'égalité dans le modèle initial est décidable. Et un corollaire, donc c'est que le typage est décidable. Et ça, c'est une propriété donc, qui est vraiment importante si on veut utiliser la théorie des types comme langage de vérification des preuves, puisqu'on doit être capable de décider si une preuve potentielle est correcte ou non. Donc ça, cette décidabilité du modèle initial est absolument fondamentale. Et donc ça, c'était Kreisel, donc, qui est un des premiers à avoir pensé à une donc, théorie des constructions pour représenter la logique, insistait sur ce point. Donc on doit être capable de reconnaître une preuve quand on a une preuve qui est donnée. Alors ce qu'on va présenter, c'est la preuve d'une propriété plus faible, qui est la propriété de canonicité, qui entraîne la cohérence. Okay. Alors, donc cette notion de canonicité donc, a une histoire et de décidabilité en fait pour l'égalité a une histoire très riche. Donc, elle remonte en fait aux travaux de Hilbert dans les années 1920-1930, qui introduit un calcul fonctionnel avec deux types de bases, donc un type de base pour les entiers et un type pour les ordinaux. Donc le but de Hilbert, c'était d'étudier donc, la cohérence de l'arithmétique et l'analyse, mais aussi, donc, il avait l'espoir de montrer l'hypothèse du continu, donc c'est pour ça qu'il introduit un type des ordinaux, et son but, c'était de montrer donc, l'hypothèse du continu en donnant une bijection entre le type des ordinaux et le type des fonctions de n flèche n. Alors le type des entiers, donc il introduit une notion de constructeur. Donc le type des entiers est construit à partir des opérations 0 et n plus 1. Et donc j'utiliserai cette notation. Donc pour tout entier donné k, intuitif, je peux le représenter par un terme de ce système fonctionnel que je vais noter k bar. Et le type des ordinaux, de même, donc est construit à partir des opérations 0, successeur et limite, si on a une suite d'ordinales. Et il introduit donc le schéma de récursion primitive, le schéma usuel, avec des paramètres x1 et xn, et il remarque que l'on semble obtenir plus de fonctions si on permet des paramètres fonctionnels. Donc il introduit cet exemple-là, une fonction, où là on a un paramètre fonctionnel f qui attend deux entiers et rend un entier. Donc ça c'est schéma de... On applique le schéma de récursion primitive, mais avec des paramètres fonctionnels. Et donc ça, on peut le réécrire de cette manière-là. Donc ça, c'est assez direct. Donc en remplaçant, si on remplace phi de n plus 1 par sa définition, et on déploie les définitions, on voit que phi de n plus 1, a, b plus 1, est égal à ça. Donc on a un schéma, donc il remarque que si on définit les fonctions en utilisant des paramètres fonctionnels, en fait on peut réécrire cette définition de fonction sans utiliser de paramètre fonctionnel, mais avec un appel de fonction qui est plus compliqué que le schéma de récursion primitive récursive. Et il demande à son étudiant Ackermann, donc c'est la source de la fonction qui est appelée fonction Ackermann, il demande à son étudiant Ackermann de montrer qu'on ne peut pas définir une telle fonction sans utiliser de paramètre fonctionnel, de manière primitive récursive. Donc ça peut être vu comme une justification dans les années 20, donc de la programmation fonctionnelle. Donc l'importance d'avoir des paramètres fonctionnels. Donc ça, c'est un résultat extensionnel. Avoir des paramètres fonctionnels permet de définir plus de fonctions. Donc dans les années 80, donc Loïc Colson pourra montrer un résultat analogue, mais de nature intentionnelle. Donc, on n'a pas de bonne fonction primitive récursive pour calculer le minimum de deux entiers. Donc, c'est possible de le définir de manière primitive récursive, mais l'algorithme qu'on va obtenir n'est pas bon. Et ça, c'est un théorème. Mais il y a un bon algorithme, donc si on permet des paramètres fonctionnels. Alors, une autre motivation donc, du travail de Hilbert, à part l'hypothèse du continu, donc, c'était de montrer la cohérence de l'analyse. Et pour ça, il introduit un nouveau symbole, donc le symbole epsilon, qui choisit un zéro d'une fonction f s'il y a un zéro. Donc il introduit ce symbole epsilon et ce schéma d'axiome. Donc si f de x égale 0, alors f de epsilon de f égale 0. Et donc sa méthode pour montrer que l'introduction de ce symbole n'introduit pas de contradiction est de comment éliminer ce symbole epsilon de toute preuve donnée. Donc l'idée, c'est qu'en général, epsilon ne sera pas calculable. Donc on peut pas calculer. Étant donné une fonction, on ne peut pas calculer s'il a un zéro ou non. Mais dans une preuve donnée, où on utilise un nombre fini de ces axiomes-là, on va être capable d'éliminer le symbole epsilon de f. Donc c'est comment il procède. Donc c'est par essai et erreur. Donc on essaye d'abord avec epsilon de f égale 0. Et puis on regarde, donc si on a utilisé cet axiome-là, par exemple sur l'entier 5, on regarde cette implication-là. Et on se demande si elle est valide ou non. Donc si jamais f de 5 est différent de 0, donc ça, l'implication est correcte. Donc cet cas particulier de ce schéma est correct, donc il n'y a pas de problème. Mais si jamais donc, f de 0 est différent de 0 et f de 5 égale 0, ben, ce n'est pas grave. On a, donc 0 n'était pas correct pour epsilon de f, mais on a trouvé en remarquant, donc en testant que cet essai n'était pas correct, on a en fait trouvé un 0 pour f, et donc on change la valeur de epsilon de f en 5. Donc c'est une méthode par essai-erreur, très astucieuse, et qui en fait est la. C'est de cette manière en fait que la première preuve du théorème de Herbrand a été faite, donc c'est en suivant cette méthode-là. Donc ça, c'est une méthode. Pour utiliser cette méthode, il est essentiel de pouvoir calculer les valeurs des termes dans ces systèmes fonctionnels sans symbole epsilon. Donc c'est le résultat de canonicité. Tout terme de type n est convertible. Donc si on prend un terme de type n de ce système de fonctionnel avec la définition primitive récursive, tout terme de type n, sans le symbole epsilon, tout terme de type n est convertible à un terme de cette forme-là. Alors ce système fonctionnel sera repris par Gödel, et Gödel va travailler dessus en plusieurs étapes. En 1940, il donne un exposé sur ce système, non publié, mais qu'on peut trouver maintenant dans les œuvres complètes. En 1958, donc, il a ce papier dans la revue Dialectica, et ce papier sera appelé. Donc ce système va porter le nom de système Dialectica. Et ensuite, donc, Bernays va essayer de le convaincre de publier une version anglaise de ce papier, sans succès. Donc il va y avoir beaucoup de correspondances entre Bernays et Gödel, et Gödel n'est jamais vraiment satisfait en fait. Il essaie de travailler sur ce papier, mais sans être vraiment satisfait. Et on va essayer de voir donc, où est le problème potentiel dans cette approche. Donc ceci va porter le nom après du système T. Et un des buts, donc, c'est d'étudier la cohérence de l'arithmétique. Dans ce but, il introduit un calcul avec une égalité T égale U, mais maintenant l'égalité n'est pas seulement sur le type des entiers, mais sur un type quelconque. Donc ça peut être un type de fonction. Et il pense à cette égalité comme une égalité définitionnelle. Et sans vraiment expliquer donc, dans ce papier pourquoi, il insiste sur le fait que cette égalité doit être décidable. Donc ça c'est clair, si on pense à cette égalité comme une égalité définitionnelle, parce que donc là, on regarde la définition d'une fonction, la définition c'est un objet syntaxique, on doit pouvoir voir si les deux termes TU ont la même définition. Mais ce qui n'est pas clair, donc, c'est qu'est-ce qu'il avait en tête dans cette notion d'égalité définitionnelle. Et pour cela, donc, on a besoin d'un théorème de normalisation, et donc ça c'est la source des travaux sur l'étude de la notion de normalisation. Donc à chaque terme, on va associer un terme en forme normale, donc norme de T, tel que si T T et U sont convertibles, si et seulement si, donc les termes norme de T et norme de U sont strictement identiques. Et Gödel considère cette notion d'égalité définitionnelle et d'étudier la notion d'égalité intentionnelle très importante. Donc ça, c'est un extrait d'une lettre de Gödel à Bernays, donc où il insiste sur cette notion-là. Et donc cette notion va être un peu surprenante, va être l'objet donc, de nombreuses discussions entre Bill Howard et Tate, donc qui vont étudier ces systèmes, cette notion-là en détail. Alors, de manière intéressante, donc, cette notion d'égalité définitionnelle, de manière complètement indépendante, donc, va être redécouverte par De Bruijn, et elle joue un rôle donc, essentiel dans son système automate et en théorie des types. Donc c'est encore ce jeu-là d'égalité stricte, égalité définitionnelle, pour capturer des phénomènes qui sont faibles, comme la notion d'équivalence entre catégories. Alors donc Gödel, comme je l'ai dit, publie cette étude donc, en 1958, mais ce papier présente le système, mais ne contient pas de preuves de décidabilité, de légalité ou même de canonicité. Donc ça va être l'objet de travaux de Tate dans ce papier-là en 1967, partie 1, mais je ne crois pas, il n'y aura jamais de partie 2. Il essaye de préciser donc, certains points de ce papier, présente une preuve de canonicité et de normalisation pour le système de Gödel. Et là, donc, on voit dans ce papier, on voit clairement que Tate et donc Howard luttent vraiment avec cette notion d'égalité intentionnelle ou définitionnelle. Donc là, par exemple, le premier essai, le système de Tate est un système avec combinateur. Donc en termes de lambda calcul, donc, c'est une égalité faible. Et donc Tate, dans ce papier, donne l'exemple de lambda xx et lambda x, la paire xx, et on fait la première projection. Donc ces deux termes TU sont bêta-convertibles, mais ne sont pas faiblement bêta-convertibles. Mais si on applique donc T et U à des variables, TX et UX deviennent convertibles pour une variable X quelconque. Donc il écrit, il semble raisonnable, compelling, de regarder T et U comme définitionnellement égaux. Mais on voit que ce n'est pas vraiment clair que doit être l'égalité définitionnelle. Donc là, dans la leçon précédente, donc j'ai présenté une motivation, mais purement structurelle, pourquoi il est intéressant d'avoir l'état-conversion, donc bêta-état, la notion de modèle, et ça se passe mieux donc, pour les modèles quand on a cette convertibilité. Donc ça, c'est une notion purement mathématique qui motive d'introduire une notion forte d'égalité définitionnelle avec bêta et état-conversion. Alors, Hilbert et Gödel n'utilisent pas la notation du lambda-calcul, qui sera introduite par Church en 1930. Donc à la place, c'est un système avec combinateur. Pour Tate, c'est avec S et K. Et pour Gödel, donc, c'est une sorte de super combinateur. Donc on a le droit d'introduire une fonction F avec un schéma de définition de cette manière-là. Donc il y a deux manières d'introduire des fonctions, soit par équation explicite, soit par récursion primitive récursive. Donc un peu comme un des premiers langages programmation fonctionnelle, donc le langage David Turner, Miranda n'utilisait pas la notation de lambda calcul. Donc les termes sont les constantes, variables et applications. Alors le livre de Schoenfield présente une preuve très claire de canonicité que je vais suivre, et cette preuve-là en fait va inspirer Girard dans sa preuve de normalisation pour le système F. Donc là, j'ai donné les règles de calcul, les règles de l'égalité. Donc l'égalité est une relation réflexive, symétrique, transitive, et on a l'application est une congruence. Et on peut introduire les fonctions par un schéma de définition explicite ou par récursion primitive récursive. Et ce calcul-là donc, peut être vu comme une version simple du calcul purement équationnel que j'ai présenté dans ma leçon précédente pour la théorie des types. Alors, donc l'idée de Tate, en suivant les indications de Gödel, donc pour montrer la canonicité, est une définition par induction sur le type. Donc là, ce système est typé par les types simples avec le type de base n. Donc on va définir n' de t comme étant que t est convertible à un terme de cette forme-là, donc en utilisant ces règles de convertibilité. Donc ça, c'est la définition au type de base. Et après, on définira que t de type A'B est calculable s'il envoie tout terme de calculable de type A sur un terme calculable de type B. Et à partir de là, donc on a une preuve que tout terme clos de type n est convertible à un terme de cette forme-là. Très simple, très clair. Donc le premier lemme, c'est qu'un terme construit à partir de constantes calculables est calculable. Donc ça, c'est clair, puisque par définition de la calculabilité, si j'applique T à U, T est calculable et U est calculable, donc TU est calculable. Donc ça, c'est la définition, c'est presque par définition. Ensuite, un terme convertible à un terme calculable est calculable. Donc ça, ce lemme 2 est montré par induction sur le type. Donc pour le type des entiers, donc cela résulte du fait que la convertibilité est une relation d'équivalence et que j'ai défini convertible comme étant j'ai défini calculable au type n comme étant convertible à un terme de la forme k bar. Et pour le type à flèche b, donc cela résulte, c'est par induction sur le type. Si t et t' sont convertibles, donc tu va être convertible à t'u, et donc par induction sur le type, t'u sera convertible chaque fois que tu est convertible. Ensuite, le lemme 3, donc ça c'est aussi par définition de la calculabilité au type n flèche quelque chose, donc c'est une preuve directe. Et enfin, on utilise le lemme 3 pour montrer que toute constante est calculable. Donc là, j'ai deux manières de définir une constante. Donc c'est par définition explicite ou par induction. Donc si c'est par définition explicite et que j'applique f à des termes convertibles, là j'aurais, avant d'introduire cette constante, t sera formé uniquement par des constantes convertibles. Donc ce terme-là sera convertible par le lemme 1. Et pour montrer que f est convertible si g est convertible par induction, je montre que f de k bar est convertible par induction sur k. Donc pour k égale 0, c'est parce que a est convertible. Et pour k plus 1, donc c'est par induction sur k, f de k est convertible. Et g est convertible par induction sur les constantes. Donc ça, c'est le lemme 4. Toute constante est calculable. Et enfin, si je prends un terme clos, donc c'est un terme qui est formé par des constantes par application, donc par le lemme 4 et le lemme 1, donc ce terme-là est convertible. Et convertible au type n, c'est que t est convertible à un terme de la forme k bar. Donc j'ai une preuve de canonicité. Et c'est donc cette preuve-là qu'on voudrait suivre, qu'on espère pouvoir suivre pour montrer la canonicité pour la théorie des types. Donc la preuve est élégante. Alors si je regarde la métathéorie que j'utilise, en fait j'utilise une logique simplement avec implique et pour tout. Et la preuve est effective, donc constructive. Donc malgré que, donc là ça a l'air d'un tour de magie, cette preuve-là me dit que si je prends un terme T de type N, ce terme est convertible à un terme de la forme k-bar. Où est-ce que le calcul se fait dans cette preuve-là? Mais comme elle est effective, cette preuve-là contient... en fait, peut être vu comme un moyen de calcul de la valeur d'un terme T de type N. Gödel avait déjà un argument similaire donc en 1940. Donc ça c'est... Et pour lui, donc, c'était très important que cette preuve-là soit directement. Donc, c'était très important de considérer cette preuve comme une preuve intuitive et pas une preuve qu'on doit réduire à une logique plus primitive. Et en fait, donc, c'est là qu'il y avait le problème. Et c'est là où Gödel n'a jamais été vraiment satisfait avec cet essai de prouver la cohérence de l'arithmétique. Donc, en particulier, donc, dans cette conférence en 1940, il n'inclut pas dans son texte la preuve de canonicité. Donc, il remarque, donc, ce qui sera fait par Tait après, qu'il n'est pas très difficile de montrer la canonicité, mais... il ne donne pas la preuve en plus de détails parce qu'en fait, il pense qu'il n'y a pas de gain épistémologique dans cette preuve de canonicité. Donc là, ça, c'est la preuve de canonicité. Donc il y a un autre résultat qui est important, c'est la preuve de normalisation, donc qui va donner l'égalité décidable à tout type. Et donc pour cela, Tate introduit donc une relation de réduction sur les termes, donc comme dans le papier de Girard, donc c'est une réduction qui suit une stratégie donnée, donc cette stratégie-là, et il redéfinit N' de T. Donc la preuve suit la même idée que cette preuve de canonicité, mais N' de T va être définie comme T se réduit sur un terme de cette forme-là. Et il montre que tout terme T est normalisable pour un type quelconque. Mais pour cela, donc, il y a un problème technique supplémentaire dans la preuve, c'est qu'il doit introduire une fonction, donc une constante spéciale 0 de type A pour toute A, par induction sur A, qui est la fonction qui rend toujours 0. Donc au type N, c'est 0, et au type A flèche B, donc c'est la fonction qui à tout X associe 0 au type B. Et le lemme clé, maintenant, donc pour montrer la propriété de poursuivre cet argument de preuve de l'argument qu'on a suivi pour montrer la canonicité, le lemme clé, c'est de montrer de manière simultanée par induction sur A que ce terme est calculable et que si T de type A est calculable, alors T est normalisable. Et donc il peut montrer comme ça la preuve de normalisation. Donc ceci permet avec la propriété de confluence, et en fait là il n'a pas montré la confluence parce que là il a une stratégie pour la réduction, de montrer que la conversion de termes est décidable pour chaque type comme l'exigeait de Gödel. Donc là, je ne vais pas présenter tout de suite en détail cette preuve de normalisation. Le point sur lequel je veux insister, c'est qu'on s'attend à ce que la preuve de canonicité soit comme une version plus simple de la preuve de normalisation. Donc là, pour avoir une preuve en fait simple de canonicité pour la théorie des types, preuve que je vais présenter, on doit utiliser une notion supplémentaire qui est introduite donc pour un calcul imprédicatif, c'est le calcul du système F, donc c'est la notion de candidat de réductibilité pour Girard, donc que j'appelle ici candidat de calculabilité. Donc là, c'est le problème qui se pose si on veut suivre cette stratégie pour montrer la normalisation pour une théorie avec quantification sur les types. Donc par exemple, pour ce type-là, donc le type des identités polymorphes, qui a cette fonction identique polymorphe, donc comment définir que T doit être calculable pour ce type-là? Donc il y a un problème de circularité. C'est si on essaye de dire pour tout A, on doit avoir T de A calculable au type A flèche A, il y a un problème de circularité parce que A peut être un type qui contient T et la définition est circulaire. Donc pour cela, Girard a l'idée d'introduire la notion de candidat de calculabilité. Et si on veut juste la preuve de canonicité, en fait, un candidat de calculabilité au type A, c'est juste donc un prédicat sur l'ensemble des termes de type A qui est clos par conversion, un prédicat arbitraire. Et alors, donc ça c'est une astuce qui permet de briser cette circularité, et on peut définir T' de T comme étant pour tout A et tout candidat CA, on a CA de U implique CA de TAU. Et cette définition n'est plus circulaire. Et par exemple, donc, on peut vérifier qu'avec cette définition-là, l'application identique est bien calculable au type de la fonction donc Px, x'x. Donc, parce qu'on peut vérifier donc, que TAU est convertible à U. Et donc on aura bien que CAU implique CA de TAU, puisque CA est supposé être clos par convertibilité. Donc la même idée marche pour la normalisation, mais il faut cette fois introduire une constante supplémentaire au calcul. Donc ça, c'est un problème technique qui va être important pour la théorie des types. C'est que dans ces systèmes, on a par opposition au système T où tous les types sont habités, donc par exemple par la fonction 0, là, pour la théorie des types, on peut avoir des types vides, comme pour tout x, x. Donc là, il va y avoir un problème technique. Ce problème technique, donc Girard le résout en ajoutant une constante supplémentaire, 0a, avec de nouvelles lois de calcul, donc ces lois de calcul-là. Et il va imposer donc au candidat de vérifier ces conditions-là, qui viennent de la preuve de Tate, cette preuve-là. Donc c'est que les deux propriétés qu'on montrait par induction sur les types, maintenant on va les imposer aux candidats de calculabilité. Alors, Girard généralise cette preuve au système f oméga, et c'est cette preuve donc, que Markinov essaye d'adapter au système invectif de points types. Et comme je l'ai dit, donc, l'introduction de ces constantes est nécessaire par la présence de types vides. Donc, comme je l'ai dit aussi, donc, cette notion de candidat de calculabilité va être importante même pour un calcul prédicatif. Alors, le but de Girard n'était pas de. En fait, pourquoi il introduit ce calcul ? C'est en fait pour généraliser le système, l'interprétation dialectique de Gödel à l'analyse. Et de manière donc surprenante, donc en fait ça c'était le but premier de Girard, et de manière surprenante, la même idée, donc comme va le remarquer Kreisel et Martinloff et Prawitz, la même idée permettait de montrer le processus de normalisation pour l'analyse, formulé en déduction naturelle, termine toujours malgré son caractère circulaire. Et donc ça, cela donnait une nouvelle preuve donc effective de la conjecture de Tycioti, qui était une preuve d'élimination des coupures pour l'analyse, telle que formulée par Tycioti. Alors, maintenant, donc, je vais essayer de présenter donc, la preuve de canonicité, mais pour la théorie des types. Et alors là, donc, dans la leçon précédente, donc, j'ai essayé de donner une version précise de la théorie des types, et je pense que c'est comme ça que qu'on pense à la théorie des types maintenant. Mais donc, si on regarde la littérature, il y a eu énormément de versions différentes de la théorie des types. Avec c'est un processus difficile donc de mettre au point ce système. Donc dans les années, au début des années 70, donc après la découverte du paradoxe pour un système de type de point type, donc Martinloff formule une version de la théorie des types où la conversion est définie au niveau des termes non typés. Et il a d'abord dans ce système 72, donc il remplace type de point type par un univers prédicatif. Donc il fait une distinction entre les petits types et les types larges. Et il donne l'analogie avec la notion d'univers de Grothendieck où il y a, pour faire une distinction entre les petits ensembles et les ensembles larges. En 1973, Martinloff propose une autre version de la théorie des types. Il introduit un jugement de conversion, mais il a encore une relation de réduction sur les types, mais c'est une relation de réduction qui est typée. Mais il a une version en termes de combinateur. Donc c'est pour une bêta conversion qui est faible, qui ne contient même pas en fait la bêta conversion. Et donc a fortiori pas la eta conversion. Alors donc ce papier contient des idées très très intéressantes. Donc en fait c'est ce papier lit les idées de ce papier que je vais suivre pour cette preuve de canonicité. Mais Martinloff donc n'a pas été content avec ce papier. Donc il dit qu'il avait des contraintes de temps pour écrire ce papier. Et on voit que ce papier est écrit à la hâte et n'est pas complet. La preuve n'est pas présentée dans tous les détails. Donc en 1979, Martinloff change complètement de système en gardant un jugement de conversion. Il y a encore la preuve de canonicité. Bêta et en conversion sont introduites. Mais il introduit donc une nouvelle règle sur l'égalité qui implique que la normalisation n'est plus valide pour ce système. Et le typage n'est pas décidable. Donc ça, c'est très curieux. Donc, mais pour Martinloff, cela veut dire qu'on ne peut plus penser aux termes comme une preuve. On doit voir les termes comme un objet qui est extrait d'une preuve donnée. Et pour avoir une preuve, il faut introduire des informations supplémentaires pour pouvoir vérifier si une preuve est valide ou non. Et donc, dans le livre de 1984, qui présente la même version et un changement, c'est la représentation des univers comme type avec une fonction de décodage. Donc un changement important qui s'est produit donc, entre les deux premières versions, c'est d'introduire un jugement de conversion explicite. Donc, mais ça introduit un problème technique, c'est que pour quand on a la conversion qui est introduite au niveau des termes non typés et qu'on montre la propriété de confluence, il est simple de montrer que l'opération de produit dépendant est injective. Et ça, c'est un lemme clé pour montrer que l'opération de bêta-réduction préserve les types, qui est une propriété essentielle si on veut utiliser ce système comme langage de programmation fonctionnelle. Donc là, il va y avoir un problème technique si je veux introduire une relation de conversion comme jugement. Ça va être comment montrer cette propriété essentielle du modèle initial. Avoir un jugement de conversion, donc c'est très très utile si on veut une bonne théorie des modèles de la théorie des types. Donc ça, c'est très bien. On voit ce point-là de manière très claire dans ce papier de Peter Axel. Donc comme je l'ai dit, le problème, donc ça c'est essentiel si on veut une bonne notion de modèle. Le problème, donc, ça va être de comment montrer l'injectivité de l'opération du produit dépendant. Et l'idée donc, qui est due à Peter Hancock, c'est de montrer cette propriété comme une conséquence de la construction d'un modèle. Donc en termes modernes, donc, l'idée dans ce papier-là, c'est vraiment la construction d'un modèle de recollement. Et mais un autre problème technique, donc, c'est qu'avec un jugement de conversion, il n'est pas si simple de résoudre le problème des types vides. Donc si on ajoute des constantes, donc c'est très clair, si on définit la conversion comme confluence, et avec une relation de réduction, c'est très clair que de montrer que l'ajout des constantes est conservatif pour la conversion, ce n'est pas si simple de montrer que cette conversion est conservative si on a un jugement de conversion. Donc ça va être un autre problème technique à résoudre. Alors comme je l'ai dit, donc pour la version de 1979, Martin Love ajoute cette loi-là, qui permet de transformer une preuve d'égalité dans le système en un jugement de conversion. On peut alors montrer l'extensionnalité. Donc, on peut montrer que deux fonctions sont égales si elles sont égales point par point. Et pour cela, donc, on utilise la loi suivante. Donc, cette loi-là est valide pour la conversion. Et donc, si on identifie la conversion à une preuve de l'égalité, on va pouvoir montrer cette implication-là. Mais ceci entraîne que ce jugement-là n'est pas décidable. Et on peut en déduire donc, que le jugement de typage n'est pas décidable. Et avec des univers, en fait, introduire cette règle de conversion entraîne que le système n'est pas normalisable. Donc on peut construire ce terme-là qui n'a pas de forme normale. Donc ce terme-là, c'est delta-delta. Donc si je suppose que x est égal à x slash x, je vais pouvoir appliquer x à x, et ce terme-là va être de type x aussi. Donc j'obtiens un terme de ce type. Là, qui n'a pas de forme normale. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui va étonner, par exemple, Howard, donc, qui dit qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce système-là par rapport à la notion d'égalité. Un autre caractère surprenant de ce système de 79, c'est qu'il prouve la négation de la thèse de Church. Et ça, c'est vraiment surprenant, parce qu'on s'attend que le système soit compatible avec la règle de Church, et un système constructif ne doit. C'est très surprenant s'il prouve la négation de la thèse de Church. Mais en fait, donc, ce phénomène-là vient surtout de l'interprétation forte de l'existence. Donc quand on formule la loi de Church, on représente existe par un sigma, et c'est de ce fait-là que vient la contradiction. Et en fait, donc, Martin Escardot pourra montrer en fait, un phénomène tout à fait semblable pour la version intentionnelle de la théorie des types. Donc si on formule le principe de continuité avec un sigma, en fait, on peut montrer la négation du principe de continuité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout... qui est très surprenant pour un système constructif. On ne s'attend pas à ce qu'il prouve la propriété de continuité, mais on ne s'attend pas à ce qu'il prouve la négation du principe de continuité. Mais ça vient du fait donc, de l'interprétation forte de l'existence. On peut toutefois donc montrer la canonicité, donc la propriété de canonicité est valable pour le système de 1979. Ceci est possible, donc une définition inductive récursive complexe qui est justifiée dans ce papier-là. Et donc le système New Pearl est construit en utilisant cette version-là de la théorie des types. Alors, comme il ne peut pas utiliser un algorithme de typage, à la place, donc, on doit utiliser une approche que j'appelle donc approche LCF, qui est due à Robin Milner. C'est de, pour être sûr de la correction des preuves, on va introduire un type abstrait de preuve. Donc, et c'est comme ça qu'est implémenté le système NewPerl. Alors que les versions de la théorie des types et l'automate, les versions de la théorie des types donc, intentionnelles, pourront utiliser donc, l'approche d'automate de représenter l'algorithme de typage pour vérifier la correction des preuves. Donc ça, c'est quand même un système... donc cette direction-là reste à explorer. Donc en fait, par exemple, donc, ça permet des preuves qui sont élégantes. Donc là, il y a eu des essais, en fait. On peut comparer les preuves qui sont faites dans une version intentionnelle et version extensionnelle. Donc en particulier, donc, Mark Bickford a donné dans ce système-là formaliser la construction de modèle de Préfesseau de la théorie des types et en fait à formaliser la construction d'un modèle de l'univalence dans ce système-là. Donc les énoncés sont très élégants. Mais ce qui était surprenant donc, dans cet essai-là, c'était certains systèmes informels qui tenaient deux lignes étaient surprenamment complexes à représenter. Donc prenaient une semaine à vérifier dans ce système-là. Donc ça, c'est un point... Donc ça, c'est un sujet de recherche actuel. C'est d'avoir une notation explicite pour les preuves. Donc ça a l'air quand même intéressant par rapport à l'approche LCF. Et en plus, donc, un des aspects sur lesquels je veux insister, c'est que avoir représenté les termes de preuve par cette notation du lambda calcul permet de donner donc une structure très riche à la notion de preuve et de permettre des opérations de réduction et de substitution sur les preuves. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été encore exploité dans les systèmes de preuve en théorie des types. Donc c'est de faire des transformations sur les preuves par instanciation d'une preuve très générale sur un argument concret pour mieux comprendre la preuve et l'analyser. Donc ça, c'est possible si on a une représentation explicite des preuves, et ce n'est pas possible dans cette approche 1979 de Martin Loew. Alors, qu'est-ce qu'il y a des systèmes Lean et ROC? Donc, le système Lean ne vérifie pas la propriété de normalisation et de décidabilité du typage. Donc, ça a été quelque chose qui a été remarqué en 2019. Donc, il est possible de construire un terme dans le système Lean qui n'est pas normalisable. Donc, ça veut dire que la correction des preuves n'est pas décidable en théorie. Le système est typage est semi-décidable. En pratique, ça n'a pas l'air de poser de problème. Mais donc c'est une objection de nature conceptuelle ou philosophique. En fait, cette règle-là qui permet des termes non normalisables, je ne pense pas qu'elle soit utilisée de manière essentielle donc pour Lean. Et je pense que ce serait possible de changer le système de type sans effet pratique et d'avoir un système qui est normalisable. Alors pour le système ROC, donc le statut de la normalisation n'est pas si clair, donc à cause d'une loi qui a été introduite, donc en particulier pour montrer cette loi de constructive epsilon, dont j'ai parlé dans une leçon précédente, et la normalisation pour ce système, je pense, n'a pas été vraiment étudiée. Mais dans les deux cas, donc, on a la propriété de canonicité. Alors, quel est le problème si on essaye de généraliser la preuve de Schoenfield pour la théorie des types, comme présenté dans la leçon précédente, donc avec une présentation équationnelle, donc comme la présentation de Schoenfield. Donc là, on s'attendrait qu'on puisse montrer la canonicité en suivant cette preuve-là. Alors, on essaye, donc et le problème donc, va être avec les univers. Donc, pour t égale n, donc calculable, ça va être comme dans le système de Schoenfield, convertible en termes de cette forme-là. Donc, avec les produits dépendants, donc on dira que si U est calculable au type A, alors TU est calculable à ce type-là. Donc là, il y a déjà un problème, c'est que pourquoi ce type-là est plus simple que le type B. Mais pour T, donc pour un univers, il n'est pas du tout clair quelle doit être la définition. Donc, T' de X, donc on voudrait dire que X est convertible à un type de ce type-là, ou de ce type-là, ou de ce type-là. Mais en fait, donc, quand on présente la théorie des types avec un jugement de conversion, il est possible, a priori, qu'un type de cette forme-là soit convertible à un type de la forme UM, où pi n'est peut-être pas injectif. Donc là, il y a un problème, donc quand on essaye de suivre cette démarche-là, pour définir qu'est-ce que être calculable pour un type donné. Donc là, il y a un problème technique, comment définir la calculabilité par induction sur le type-là. Alors, on peut résoudre ce problème en introduisant une relation de réduction, donc en introduisant une réduction sur les termes, et à la place de définir un prédicat de calculabilité, en définissant une relation de calculabilité. Donc ça, c'est essentiellement donc, ce qui est suivi dans le système New-Perl, avec cette définition avec une relation d'équivalence partielle. Et on peut appliquer cette idée pour montrer une preuve de canonicité. Alors le problème, c'est que la preuve devient complexe, mais en fait cet argument-là a été vérifié formellement donc dans le système AGDA, et je crois aussi dans le système Koch. Donc c'est possible de suivre cette approche. Alors une objection conceptuelle à cette approche-là, c'est que quand on fait ça pour la théorie des types avec univers, et avec produits dépendants et sigma-types, on utilise dans la métathéorie un système beaucoup plus fort que celui qu'on essaye d'analyser. Et en plus, donc, il est très étrange d'introduire une relation pour un système qui ne vérifie pas l'extensionnalité et d'avoir un argument si complexe. Donc si on essaye d'utiliser cet argument juste pour la canonicité, l'argument a l'air beaucoup trop complexe pour montrer la canonicité. Alors, donc la clé sur laquelle c'est vraiment le point essentiel de cette leçon, c'est de définir, à la place de définir un prédicat de calculabilité, c'est de définir une structure de calculabilité. Donc ça va être ça la clé. Donc ça va être que donc, pour un prédicat de calculabilité, donc A' de t était, si t est de type A, donc A' de t c'était une propriété de t. D'accord. Et donc à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre cette preuve-là, mais je vais remplacer A' de t comme étant un ensemble. Donc ça va être un ensemble. Donc ça va être une famille d'ensembles à la place d'être une famille de propriétés. D'accord. Et c'est vraiment la clé qui permet d'avoir une preuve simple de canonicité. Et c'était ça. Donc on peut voir cette idée-là était implicite dans le papier de Martinov 1973. Et en fait, donc si on analyse ce qui se passe dans cette preuve-là. En fait, c'est une application, c'est vraiment ce qu'on suit là, c'est la technique de recollement le long d'un morphisme exact à gauche. Donc c'est... Alors, et c'est ce recollement-là qu'on utilise, qui est valable pour un modèle quelconque. Donc si M est un modèle quelconque de la théorie des types, donc ANS, c'est le modèle ensembliste que j'ai présenté la dernière fois, on peut toujours définir un morphisme, donc qui ne va pas être un morphisme strict, qui va juste être un morphisme exact à gauche. Et en fait, ça, c'est le morphisme qui est utilisé quand on veut représenter abstraitement l'évaluation pour un langage de programmation. Donc, c'est quoi ça ? Ça, c'est la notion, c'est exactement la notion d'environnement. Donc, si gamma est un contexte quelconque, psi de gamma, je vais le définir comme étant les environnements clos pour ce contexte-là. Donc, les flèches de 1 dans gamma. Je dois définir. Donc maintenant, j'ai un ensemble. Alors, psi de A doit être défini dans le modèle ensembliste, un type sur un ensemble donné est défini comme une famille d'ensembles. Donc, psi de A doit être une famille d'ensembles sur cet ensemble-là, et c'est cette famille d'ensembles-là. Donc, si rho est un environnement pour ce contexte-là, psi de A rho va être l'ensemble des termes clos dans ce modèle-là pour le type A rho. Donc, A rho, c'est un type sur le contexte terminal 1. D'accord ? Donc je peux regarder les termes de ce type-là, les éléments de ce type-là. Donc psi de sigma, si sigma est une substitution de delta dans gamma, et nu est un environnement pour le contexte delta, donc psi de sigma appliqué à nu, donc ça va être simplement l'application de. Ça va être la composition de sigma à nu. Donc là, nu est un morphisme de 1 dans delta et sigma est une substitution de delta dans gamma, donc je fais juste la composition de sigma et de nu et je peux définir psi de a rho comme étant la substitution en haut. A priori, donc avec cette définition-là, psi de 1 donc, n'est pas égal à 1. Donc c'est un ensemble qui n'a qu'un élément, mais a priori, cet ensemble-là n'est pas strictement égal à l'ensemble 1. Donc il est juste isomorphe à l'ensemble 1. Et si je regarde en détail, psi de delta gamma dot A n'est pas strictement égal à psi gamma psi A, mais seulement isomorphe à psi gamma psi A. Donc c'est et en général, donc on peut se convaincre, si je prends l'ensemble des termes clos, le modèle des termes clos, donc là, A flèche B, ça c'est l'ensemble des termes clos de ce type-là, et en général, donc il y a moins de termes clos de ce type-là que de fonctions, donc ça doit être LM des termes de type A rho dans les termes de type B rho. Donc il y a plus de fonctions ensemblistes que des fonctions qui sont représentées par des termes. Donc là, ça montre que ce n'est pas du tout un morphisme strict qui préserve le type des fonctions. Donc c'est juste, comme j'ai dit, la seule condition sur le morphisme exact à gauche, c'est de préserver à isomorphisme près l'opération d'extension des contextes. Donc on a un morphisme strict de projection, comme toujours, et si je pars du modèle initial, donc si M est le modèle initial, donc on a toujours un morphisme strict du modèle initial dans un modèle quelconque, et là en fait on va avoir une section de ce morphisme de projection là. Et c'est ça, donc c'est ça l'essence de la preuve de canonicité. Donc là il y a une analogie vraiment remarquable entre la paramatricité et la canonicité. Donc dans les deux cas, c'est une preuve qui peut être vue comme une application de cette technique de modèle de replacement. Pour la paramétricité, donc j'utilise le morphisme identique, et c'est vrai pour un modèle quelconque. Pour la canonicité, j'utilise ce morphisme, donc d'un modèle quelconque dans le modèle ensembliste, et je l'applique au modèle initial, et je peux montrer la canonicité. Donc ce fait-là que la paramétricité et la propriété de canonicité peuvent être capturées de manière analogue, donc c'est une remarque assez récente. Donc comme pour la paramétricité, ceci peut être décrit syntaxiquement. Donc cet ensemble-là que je définis, pour le modèle initial, donc pour le modèle des termes, en fait je peux voir ça comme une transformation. Donc contrairement à ce qui se passe pour la paramétricité où j'ai une transformation purement syntaxique, là j'ai une transformation entre le modèle des termes et le modèle ensembliste. Donc là ce qui se passe, c'est si dans le modèle des termes j'ai une famille de type sur A, alors je vais définir un ensemble, B' U' de V, qui va être une famille d'ensemble, donc pour V termes clos de type A, pour V termes clos de type B de U, pardon, et pour U termes clos de type A, et U' un élément de l'ensemble A' de U. Et B', U' va dépendre de U et de U', donc strictement. Alors que donc si j'applique ça seulement pour définir des prédicats, donc dans cette définition-là, je peux oublier U', parce que A' de U va être une propriété donc, qui peut être vue comme un ensemble avec au plus un élément. Donc la U' peut être oubliée dans cet argument-là. Et alors là, on obtient, donc si on explicite ce qui se passe, on obtient cette transformation-là, qui est tout à fait uniforme sur les types et sur les termes. Donc pour T, le type des entiers, donc T' de T maintenant va être un ensemble. Donc c'est l'ensemble de tous les entiers K, tels que T est convertible à K bar. Donc en fait, on sait, a posteriori, on sait cet ensemble à O plus un élément. Mais a priori, donc comme je pars d'une théorie des types avec un jugement de convertibilité, a priori cet ensemble pourrait avoir plus d'un élément. Donc c'est essentiel d'avoir un ensemble et pas une propriété. Alors pour le type des produits, T de T va être cet ensemble-là. Pour sigma, donc T de T va être cet ensemble-là. Donc là, si je lis ça, donc c'est exactement la définition de Gödel ou de Tate. Pour tout terme U de type A, si U est calculable, alors T de U est calculable. Mais maintenant, je vais introduire explicitement donc U', cet élément de cet ensemble-là, qui peut être vu comme une preuve au sens théorie des types de la propriété A' de U. Alors, être réductible au type sigma, donc c'est une paire, une preuve que T.1 est réductible et que T.2 est réductible. Et donc, le truc essentiel, donc pour les univers, où avant j'avais un problème, donc quand j'essayais de suivre la preuve de Tate avec une propriété, donc là, il n'y a pas de problème. Je vais définir T' de X pour donc être réductible au type univers. C'est en fait l'ensemble des candidats de calculabilité sur l'ensemble des termes de type X. Donc ça, c'est ça le truc essentiel. Donc c'est ici. Donc je suis l'idée de Girard d'avoir une notion de candidat arbitraire, mais maintenant j'utilise une structure au lieu d'utiliser une propriété. Donc là, on voit donc pour le type des entiers, donc a priori, ceci est un ensemble et pas un singleton, sous-singleton. A posteriori, donc ça va être ceci aura exactement un élément. Pour le type des univers, donc c'est vraiment essentiel d'avoir un ensemble. Donc UK, c'est l'univers au sens de Grothendieck dans la théorie des ensembles. Donc ça, c'est un ensemble qui a beaucoup plus. C'est pas du tout un singleton. Donc c'est ce que j'écris ici. Et donc, comme je dis, donc c'est une version de l'ensemble des candidats de réductibilité sur le type X. Et si je regarde ce qui se passe, donc maintenant, je peux regarder ce qui se passe au niveau des preuves. Donc ça, c'était implicite dans l'argument que j'ai présenté de Schoenfield. Maintenant, je peux vraiment analyser ce qui se passe dans cette preuve de calculabilité, donc comme transformation de programme, donc T de U prime, donc la preuve que T de U est calculable, en fait, ça va être cette T' qui va être une fonction appliquée au terme U et appliquée à cette preuve-là que U est calculable. Donc ça, c'est ce qui se passe pour montrer qu'une abstraction est calculable et pour montrer qu'une projection est calculable et pour montrer qu'une paire est calculable. Donc on obtient de cette manière-là un argument tout à fait semblable à celui pour le système de Gödel, mais où la propriété de calculabilité est remplacée par une structure de calculabilité. Et on a un traitement uniforme des termes et des types. En particulier, on obtient pour T de type N. Donc, qu'est-ce que donne cet argument-là ? Donc, une fois de plus, là, c'est un argument tout à fait effectif. Donc, si je suis cet argument-là et que je l'applique à un terme clos de type N, cet argument-là va me calculer T', qui maintenant va être un entier K, tel que T et K bar sont convertibles. Donc, ce qui est exactement la canonicité. Donc ça, si je regarde donc ce qui se passe, comme je peux reformuler ça. Donc ça, c'était la version du modèle de recollement formulée de manière plus proche de la preuve de Schoenfield. Si je regarde ce qui se passe donc pour ce modèle-là, donc dans le modèle pour recollement, donc un contexte, c'était une paire de contextes avec une donc c'était un contexte gamma 0, donc ça doit être un ensemble. Et une application de cet ensemble-là dans l'ensemble des donc environnements pour le contexte gamma. Donc, mais en fait, en théorie des ensembles, je peux voir toute flèche de cette forme-là, donc toute flèche y dans x. En théorie des ensembles, je peux toujours penser ça comme une famille d'ensembles au-dessus de x. Donc c'est ce qui se passe si je veux reformuler donc ce modèle de recollement comme une preuve de réductibilité. Donc cette preuve-là peut être vraiment vue comme un exemple de la technique de recollement. Alors l'analogie entre preuve de canonicité et de recollement pour un topos, donc c'était clair dans les années 80. Et c'est l'idée qui revient donc à Peter Fried, comme il est décrit dans ce papier-là. Toutefois, donc comme je vais le montrer, ceci est plutôt lié à une autre forme du résultat canonicité, donc la canonicité homotopique. Donc en effet, donc les théories qui sont étudiées dans dans ces papiers, c'est des théories qui ont un prédicat une relation de convertibilité et théories qui ont des axiomes d'extensionnalité. Donc ce qui est remarquable dans cette preuve, c'est ce qui est utilisé dans la métathéorie est proche du système que l'on étudie. Donc comme j'ai dit, ce n'est pas le cas pour une preuve qui utilise une définition inductive récursive. Donc la métathéorie dans laquelle on fait cette preuve-là n'a pas à être la théorie des ensembles. Donc ça, c'est tout à fait implicite dans le papier de Martin Love de 1973, où en fait, il utilise implicitement, sans le dire, il utilise une métathéorie qui est une théorie des types. Donc il veut, pour lui, c'est absolument fondamental de ne pas fonder la théorie des types sur la théorie des ensembles, mais donc considérer la théorie des types comme primitive, et donc la preuve de canonicité doit être faite dans une théorie des types. Et on peut voir le résultat de ce résultat-là sur le recollement de modèles comme une justification de cette approche. Donc en fait, pourquoi ? Parce que ce résultat-là donc, est valable pour des modèles arbitraires de la théorie des types qui n'ont pas à être des modèles ensemblistes. Alors cette preuve de canonicité est très intéressante aussi parce qu'elle permet, elle s'applique donc à des types de données comme le type des entiers et le type des ordinaux. Donc en fait, on peut généraliser cette preuve de canonicité à une preuve de canonicité où on a des types de données arbitraires. Donc là, et une bonne manière de comprendre ça, c'est donc j'ai une définition de n' de t comme étant l'ensemble des k tels que t est convertible à k bar. En fait, une bonne manière de voir ceci, c'est de comprendre ceci, en fait, d'introduire une formellement, donc on a besoin pour exprimer ce qui se passe, c'est très commode d'introduire la notion de famille inductive indexée, donc qui est une notion qui est utilisée dans les systèmes LIN et système ROC. Donc cette notion est fondamentale. Et en fait, c'est ce qui se passe dans cette preuve de canonicité. On peut voir le prédicat, une bonne manière de comprendre ce prédicat de calculabilité pour les entiers, c'est comme une famille indexée, donc avec deux constructeurs, 0' et S', qui sont suivants. Et une fois que j'ai compris ça, je peux généraliser ça donc à un type de données arbitraires, par exemple le type des ordinaux, pour exprimer ce que c'est que le candidat de calculabilité pour ce type-là. Donc ça va être une famille indexée sur ce type le type des termes de type ordinal. Les trois constructeurs. Et la méthode marche en général donc, pour tout type de données. Donc, par exemple, type somme, je vais être représenté par cette famille inductive. En fait, dans le papier de 1973, c'est comme ça que Martin Love montre la canonicité pour le type, identité. Type qui est aussi introduit. Donc ça, c'est une contribution fondamentale de cette version de la théorie des types, c'est d'introduire ce type identité avec les règles de réduction qui vont être fondamentales donc, pour la connexion avec la théorie de l'homotopie. Alors, en particulier, donc ça marche pour le type de données particulier absurde, qui peut être vu comme le type de données qui n'a pas de constructeur, et être calculable à ce type-là, ça va être vu comme l'ensemble vide. Donc, dans ce cas-là, donc le résultat de canonicité dit que l'ensemble des termes de type absurde est vide. Donc on obtient comme ça une preuve de cohérence. Et donc ça, cette analyse aussi explique pourquoi Martin Love pouvait avoir une preuve de canonicité et en fait aussi une preuve de normalisation pour son système avec type de point type. En effet, donc le résultat de recollement que j'ai présenté marche avec un système avec un type de tous les types. Donc en fait, ce qui se passe dans la preuve de 71 de normalisation du système, c'est que Martin Love a un type de tous les types, veut définir qu'est-ce que calculable à ce type-là, si A est de type type, et il va le définir dans une métathéorie où il a un type de tous les types U, il va le définir comme l'ensemble, cette famille-là. Donc l'ensemble des familles d'ensemble sur type LM de A. Et la preuve de canonicité est alors formellement valide. Mais comme elle est conduite dans une métathéorie contradictoire, donc elle ne conduit pas à la cohérence, comme l'a montré Girard. Donc en fait, dans ce système-là, on peut construire un terme de type absurde. Et cet ensemble-là n'est pas vide. Donc ça explique pourquoi Martin Love pouvait formellement avoir une preuve de normalisation. Donc en fait, c'est qu'il avait en tête cette propriété de recollement de modèles. Et donc ça, c'est un point sur lequel donc, Martin Love va analyser dans les années 70. Donc, c'est qu'en fait, cet argument de canonicité n'a pas de contenu épistémologique. Donc on ne peut pas voir cet argument-là vraiment comme une preuve de cohérence. Donc l'argument ne peut pas être utilisé tel quel pour être sûr de la cohérence du système. Donc, parce qu'en fait, ça ne marche pas donc, pour un système actif de points types. Et en fait, comme ce qu'on utilise dans la métathéorie est si proche de ce qu'on utilise dans la théorie, c'est difficile de voir ça comme une preuve convaincante. Donc, dans son livre de 1984, Martynov oppose donc, la cohérence au sens métamathématique, programme de Hilbert, à une cohérence simple-minded, donc intuitive. Et donc, il a une discussion très intéressante sur ces deux méthodes de montrer la cohérence, ces deux vues de la méthode de cohérence. Et en fait, donc, cette propriété de canonicité est essentielle dans cette justification intuitive. Donc, il essaye de convaincre dans ce livre, il essaye de convaincre le lecteur que la théorie des types qu'il propose a cette propriété de canonicité. Et il pense que cet argument est intuitif et peut être vu directement donc, comme une vraie preuve de cohérence, une preuve de cohérence au sens intuitif. Et le système New Pearl est en fait construit en suivant cette approche. Donc, dans le système New Pearl, chaque fois qu'on introduit une nouvelle loi de calcul, on essaie de la justifier à travers cette sémantique. Alors, cette analyse de Martynov est tout à fait proche en fait, des commentaires de Gödel, donc son analyse du papier Dialectica. Donc, il y a une correspondance très intéressante entre Scott et Gödel, qui est maintenant disponible, donc, qu'on peut trouver en ligne. Donc, Dana Scott venait de visiter De Bruyn, très inspiré par le système automate, et il essaye de formuler une théorie des types. Alors, son approche est très intéressante, parce qu'il insiste sur le fait que le système est prédicatif, donc avant que la découverte du paradoxe de Girard, et il essaye de mettre au point un système qui est équationnel. Donc, il est en fait assez proche du système que j'ai présenté. Et ceci va devenir donc le papier constructif validité de 1970, mais donc cet essai va recevoir des critiques très fortes de Kreisel, et Scott va abandonner cette approche-là. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est le commentaire de Gödel sur cet essai de Dana Scott, c'est qu'en fait, donc, le problème que Gödel voit ça comme Scott voulait voir ça comme un fondement possible des mathématiques. Et en fait, donc, ça va être toute la discussion va être est-ce qu'on peut voir ce système comme un fondement direct des mathématiques ou est-ce que ce système doit être justifié dans une meilleure métathéorie ? Et donc, Gödel, l'argument de Gödel, c'est que tel que Scott l'a écrit, ce n'est pas le cas, mais qu'il peut être possible de préciser ses idées et en fait d'avoir une approche qui peut être vu directement comme un fondement des mathématiques. Donc très très proche en fait de la discussion de Martynov dans son livre en 1984. Donc je voudrais juste terminer par une autre notion de canonicité, donc qui est la canonicité homotopique. Donc si on utilise l'univalence comme un axiome ou comme une constante, on ne peut pas espérer avoir la canonicité. Donc là, c'est très simple donc, de montrer à partir de l'axiome d'univalence, vu comme constante, de construire des termes de type nat, de type entier, qui ne sont pas convertibles à un terme de la forme k-bar. Donc à la place, Wovowski a conjecturé le résultat suivant. Donc c'est qu'on n'a pas canonicité, mais on a canonicité à égalité près, qu'on peut formuler dans le système. Donc si t est un terme clos de type nat, de type entier, alors il existe une preuve close E de ce type-là, et un terme de la forme k-bar, tel que E est une preuve de l'égalité de T et de k-bar. Et cette preuve-là, donc, pour des exemples non triviaux, la preuve E va utiliser l'univalence comme un axiome. Donc ça, c'est la canonicité homotopique, donc c'est le nom donné à cette propriété, parce qu'elle est très liée, donc elle a l'homotopie, la théorie de l'homotopie. Alors cette conjecture donc, a été résolue en 2019 donc, par Christian Sattler et Chris Capultin, puis par une autre méthode, donc par Raphaël Bocquet. Et donc c'est ce résultat-là qui peut être vraiment vu comme une généralisation du résultat de Peter Fried présenté dans ce papier-là, qui était aussi présenté pour une théorie des types extensionnels. Et dans les deux cas, donc on utilise ce résultat-là que j'ai donné dans la leçon précédente, qui est le recollement de deux modèles qui vérifient l'univalence. Et donc, le morphisme à gauche doit envoyer un type contractile sur un type contractile. Et on prend ce qu'on va prendre pour M0, donc c'est un modèle de l'univalence, donc le modèle simplicial, et pour M, le modèle des termes, avec une constante pour l'univalence. Et là, tout le problème, ça va être que si on essaye de suivre la même méthode, donc si on prend pour psi de A l'ensemble des termes clos de type A vu comme ensemble simplicial, le problème, c'est que ça va être bien un morphisme exact à gauche, mais il ne va pas vérifier la condition technique d'envoyer un type contractile sur un type contractile. Donc on ne pourra pas suivre cette méthode-là, et donc ça va être tout le problème donc, qui a été résolu par Christian Sattler et Chris Kapoutkin. Comment définir un morphisme exact à gauche entre ces deux modèles pour avoir la propriété de canonicité? Alors, donc ça c'est une preuve, première preuve de Sattler-Kapoutkin était classique, était fait dans une métathéorie classique en utilisant le modèle simplicial. Alors ça, de manière classique, une fois qu'on a ce résultat-là, donc on a cet algorithme-là. Si on prend un terme T de type N, l'algorithme va consister à énumérer toutes les preuves possibles. Et classiquement, d'après ce théorème de canonicité, on est sûr par cette énumération d'obtenir au bout d'un moment une preuve de cette forme-là. Donc ça, c'est un algorithme qui n'est pas qui procède par énumération. Si on a une preuve constructive de ce résultat-là, et si on prend pour M0 donc un modèle effectif de l'univalence, on obtient un algorithme qui va calculer K bar et qui va calculer la preuve d'égalité. Alors, donc c'est très important d'avoir le résultat de canonicité, donc de manière conceptuelle, mais aussi donc de manière pratique. Donc il y a peut-être des utilisations. Donc c'est si on montre, si on construit un terme de ce type-là, donc, et on a le résultat de canonicité, on peut extraire donc un entier qui vérifie à partir de cette preuve-là. On pourra extraire un entier qui vérifie la propriété, même si cette propriété-là est très compliquée logiquement. Donc là, c'est un exemple récent de l'utilisation de ce résultat de canonicité pour une version donc, effective de l'univalence. Donc c'est calculer un entier, qui est en fait l'entier 2 de cette preuve-là. Donc ça donne une nouvelle preuve de ce résultat-là en utilisant cette propriété de canonicité. Donc ça, c'est important d'avoir cette preuve de canonicité. Donc aussi, donc ça donne preuve de cohérence, mais comme je l'ai dit de manière épistémologique, donc c'est pas une preuve de cohérence qui est vraiment si intéressante que ça. Et donc une limitation à ce résultat de canonicité, c'est que ça ne suffit pas pour montrer la décidabilité de l'égalité. Donc on a besoin vraiment de plus. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais présenter dans au début de la prochaine leçon. C'est comment raffiner ce résultat de canonicité pour montrer la propriété de normalisation et la propriété de décidabilité de l'égalité. Et je voudrais terminer là-dessus. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.